au réseau Cogeco. Cogeco. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
D'entrée de jeu, je vous rappelle qu'à 14h30, nous couvrirons la conférence de presse tenue par Horacio Arruda, le président, évidemment, de la santé, le directeur général de la santé publique, et également la directrice Sonia Bélanger, qui est de l'île de Montréal, et également Mylène Drouin, qui est évidemment la responsable de la santé publique pour le Grand Montréal. Mais pour le moment, moi, j'aime mieux voyager que d'entendre ces choses-là. Et pour nous faire voyager dans l'histoire, mais aussi dans le présent, parce que, évidemment, notre présent a été conditionné par cette histoire-là. Éric Bédard est historien, vous le savez. Et je le rejoins tout de suite. Bonjour, Éric.
Oui, bonjour, Jean-Luc.
Dites-moi, on devait aller dans les forges du Saint-Maurice. Je connais l'importance de cela, mais vous me faites passer par Québec.
Ben là, ça s'imposait. Là. J'y repensais à mon circuit. Je me suis dit, là, on est à Péribonka, faut traverser le parc, et donc on passe par Québec. On ne peut pas ne pas s'arrêter dans cette magnifique ville de Québec, joyau du patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est évidemment, on pourrait faire tout notre été en parlant que de Québec. Hein. Oh, il y a des musées là, il y a des sites extraordinaires.
Ville exceptionnelle.
Ah, ne serait-ce que de faire le tour de l'île d'Orléans, c'est tellement beau. Aller faire une belle balade sur les plaines d'Abraham, qui est un parc maintenant où s'est déroulée la fameuse bataille du 13 septembre 1759. Mais là, je me suis dit non, je vais m'arrêter sur deux endroits que je trouve particulièrement intéressants. Le premier, c'est dans l'ancienne Lorette, donc un peu en banlieue du oui. cœur historique de Québec, dans le petit village de Wendake. Hein,
qu'est-ce que c'est, ce Wendake? C'est Wendake, pas le village, l'ancien village Huron?
Exactement. Donc, c'est le village Huron et qu'on peut visiter. C'est vraiment très intéressant. On peut le visiter et il y a là on a reconstitué un village Huron du 17e siècle avec toutes sortes de... Par exemple, on a un fumoir pour faire fumer donc le poisson. On a aussi une représentation d'une hutte. Vous savez que les Amérindiens ont presque inventé les spas. Hein? Les Européens étaient frappés par ça. Ils avaient des huttes de sudation.
De sudation, ben oui. C'est même exactement. Une cérémonie, la sudation, chez certaines peuples.
Exactement. Et on restait là, on avait chaud. Par exemple, on allait se plonger dans une petite rivière pas trop loin pour se rafraîchir. Donc, c'est dire à quel point ça date pas d'hier. On peut aussi expliquer les fabrications de canaux, parce qu'on doit énormément aux Amérindiens. Alors, c'est intéressant puisque les Hurons sont dans la région de Québec. Peut-être que beaucoup de gens pourraient dire, oh, mais c'est un peu contre-intuitif. Comment ça se fait qu'il y a des Hurons dans la région de Québec, puis il y a un lac Huron qui est en Ontario?
En Ontario? Ben oui, qu'est-ce qu'ils ont bougé? C'est des nomades?
Ben, non, pas vraiment. Les Hurons, c'était un peuple, disons, plutôt sédentaire. Ils avaient des maisons longues, là, où ils vivaient. Ils faisaient de l'agriculture.
Oui.
Non, c'est que ce qui s'est passé, c'est que les Hurons étaient des alliés des Français. D'ailleurs, Samuel de Champlain, ils vivaient dans la région des Grands Lacs, juste sur les, entre la baie Georgienne et la région des Grands Lacs.
Oui.
Et c'est là qu'ils étaient, le cœur historique du peuple Huron était là. Et ils avaient développé des bonnes alliances avec des bonnes relations avec les Français. D'ailleurs, Champlain avait passé l'hiver chez les Hurons en 1615, avait croisé quelques Hurons assez voluptueuses qui l'invitaient.
Ah oui. Samuel.
Il raconte tout ça dans son voyage, dans sa relation de voyage. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a des Jésuites qui sont allés vivre parmi les Hurons pour essayer de les convertir. Et là, on a créé des villages.
Ou trouver des voluptueuses.
Peut-être.
On ne sait pas jamais. La soutane n'est pas une garantie.
En effet, malheureusement, pour eux, c'est qu'ils étaient en guerre contre les ennemis aussi des Français. Leurs vieux ennemis, c'était les Iroquois du nord des États-Unis.
Okay.
Donc, les Iroquois les ont attaqués. Ça a été une guerre, une offensive très spectaculaire. Les Iroquois possédaient des armes, alors que les Hurons, c'était seulement les convertis, les chrétiens qui possédaient des armes. Donc, il y a eu une offensive en 1649 qui a été catastrophique pour les Hurons. Donc, les Hurons se sont un peu dispersés à travers le
centre. Ils sont venus vers Québec.
Et il y en a une poignée d'entre eux, environ quelques centaines, qui ont migré vers Québec pour aller chercher la protection de leur allié français, contre ces Iroquois qui venaient de les attaquer. Okay. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on retrouve des Hurons dans la région de Québec.
Pourquoi on les appelle Wendat? C'est quoi le vrai mot? C'est-tu nous autres qui n'avons pas compris au début que c'était des Wendat puis qu'on les appelait les Hurons? Comment ça marche?
Les Hurons, c'était les Français qui les ont appelés les Hurons. Et ce qu'on nous explique, c'est que Huron voulait dire en vieux français un peu rustre, hein, un personnage un peu rustre. Okay. Et alors que Wendat, ça voulait dire, c'est dans la langue des Hurons, ça veut dire des insulaires. Puisque si vous regardez les lieux historiques où ont vécu les Hurons dans les Grands Lacs, ça ressemblait à une sorte de péninsule, donc les insulaires.
Effectivement, dans la baie Georgienne, il y a beaucoup d'îles.
Exactement. Ouais. Donc, voilà, donc ça explique pourquoi il y a des Hurons dans la région de Québec. Et puis, après leur arrivée, ben là, les Jésuites ont essayé d'en faire de bons Français, de les sédentariser. Ils avaient donc une seigneurie qui était destinée à ça, c'était la seigneurie de Sillery. Et l'objectif, c'était éventuellement d'en faire de bons Français. Ça n'a pas vraiment fonctionné.
Il y a des musées. Il y a un musée, là, je pense.
Oui, donc, il y a un musée. Et c'est ouvert tous les jours de 10h à 16h. Et on peut aller visiter. Le deuxième lieu, est-ce que j'ai encore du temps?
Encore du temps. Mais quand je vais te dire que c'est fini, c'est fini.
Parfait. Okay. Le deuxième lieu où je veux vous amener, c'est le musée des Augustines. Alors, les Augustines, c'est une communauté religieuse de sœurs cloîtrées. Oh. Les premières Augustines sont arrivées en 1639, en même temps que Marie Guyard, Marie de l'Incarnation. Ouais. Leur objectif, c'était de créer un hôpital. Donc, ils ont créé le premier hôpital en Amérique du Nord.
À Québec.
À Québec. Et ils ont joué un rôle très important. Leur but, comme la plupart des religieuses du XVIIe siècle et des religieux du XVIIe siècle, c'était d'évangéliser, de franciser les Autochtones. Mm-hmm. Ça a marché plus ou moins bien, mais très rapidement, leur hôpital est devenu, a desservi aussi les populations, disons, de Canadiens français qui vivaient dans la région de Québec. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les Augustines, qui ont eu une longue vie, hein, ils ont eu des péripéties, leur hôpital est passé au feu en 1755, ils l'ont reconstruit. Et à partir du 19e siècle, ils vont former, ça va être un peu la première école pour former des infirmières.
Ah ouais.
Ils vont s'associer à la faculté de médecine de l'Université Laval, graduellement. Et là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que les vocations sont moins nombreuses qu'avant, et surtout sœurs cloîtrées, c'est assez...
Il faut avoir la vocation au cube.
Exactement, c'est assez austère comme vie, contrairement par exemple à la congrégation Notre-Dame, hein, des sœurs enseignantes, donc qui vivent dans le monde, ne sont pas cloîtrées. Là, ça, c'est une congrégation de sœurs cloîtrées.
Et ils ont ouvert un musée, ils ont un musée.
Justement, c'est ça, ils se sont dit, bon, là, on est en train, il y a de moins en moins de sœurs, les effectifs baissent, le recrutement est difficile, qu'est-ce qu'on fait avec notre patrimoine, nos édifices? Mais ils ont eu l'excellente idée de transformer leurs édifices du Vieux-Québec en musée, mais aussi en hôtel. Donc, c'est un hôtel vraiment exceptionnel. C'est peut-être pas donné, c'est quand même, faut allonger un peu quelques sous, mais c'est très, très beau. Attendez-vous pas à avoir une télé dans votre chambre, par contre.
Non.
La place est au recueillement, la place est à la prière ou au recueillement.
Oui, c'est comme pour les hommes aller à Saint-Benoît-du-Lac. Là.
Un peu, sauf que c'est un hôtel quand même ouvert au grand public. Là. C'est pas juste pour les gens qui veulent faire des petites sessions là, de confinement là, volontaire.
Exact.
Mais c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Il y a une petite boutique, il y a le musée qu'on peut aller voir. Ça vaut vraiment le détour. C'est très, très beau ce qu'ils ont fait.
Il reste 2 minutes, puis je veux qu'on parle de ça parce que tu l'as mis comme note dans la préparation de ta chronique, mais de femmes qui, dans l'histoire du Québec et de la Nouvelle-France, ont marqué véritablement ce que nous sommes aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, ça. Peut-être que quand on pense à la Nouvelle-France, on pense à Samuel de Champlain, à Pierre-Lemoine d'Iberville, au général Montcalm, mais on peut parfois oublier qu'il y a eu des femmes d'exception. Des femmes d'exception qui, évidemment, bon nombre d'entre elles étaient des mystiques, hein, d'ardentes religieuses, que ce soit Marie de l'Incarnation, que ce soit Marguerite Bourgeois qui a fondé la Congrégation Notre-Dame, que ce soit des sœurs Augustines. Vous avez aussi les filles du roi. Moi, je sais pas pour vous, Jean-Luc, mais il me semble que moi, je rêve d'un grand film, d'une grande saga qui nous raconterait l'histoire d'une fille du roi qui est partie de France pour venir habiter chez nous. Il y en a eu, on dit-on, à peu près 750 de ces filles du roi.
Bon, mettons ça au clair. Qui étaient ces filles du roi? Parce qu'elles ont été affublées d'à peu près toutes les réputations possibles et imaginables. Qui
étaient exactement. Alors, en gros, c'était des orphelines qui étaient prises en charge par le roi. Et en effet, on a dit d'elles qu'elles étaient des femmes de basse vertu, des peut-être même des prostituées. Or, les recherches ont montré que c'était presque à coup sûr pas le cas, notamment parce qu'elles étaient extrêmement fertiles et les prostituées parisiennes du 17e siècle avaient souvent des maladies vénériennes, donc avaient moins d'enfants, avaient des problèmes de fertilité, alors que les filles du roi qui sont venues ici étaient très, très fertiles. Elles auraient donné naissance à peu près 4500 bébés. Vous voyez que leur arrivée a été déterminante pour la suite des choses.
750 femmes ont donné 4500 bébés.
Exactement. Puis on sait aussi qu'elles n'étaient pas forcées d'épouser les hommes qu'on leur présentait.
Ah non, alors, c'était pas des mariages forcés, ceux-là.
C'était pas des mariages forcés. C'est-à-dire que c'est comme si un homme se présentait à elle, il a l'air fin, il a l'air gentil, la femme disait « OK, ouais, je suis prête à aller un petit peu plus loin ». Appelons ça une sorte d'option là sur la fille du roi.
Ouais.
Mais là, la fille du roi, des fois, allait se présenter à la terre. Tu sais, l'homme lui avait fait peut-être monter un peu un bateau, une maison, si tu vas voir ma cabane.
L'amour est dans le pré, là.
Exactement. Mais là, elle arrivait, elle voyait la cabane, c'était pas tout à fait ça que le colon avait dit. Ouais. Elle pouvait renoncer. Il y a eu un certain nombre de filles du roi qui ont dit oui au départ, puis qui ont dit non. Donc, ça montre qu'elles n'étaient pas forcées, là. Mais évidemment, elles avaient l'embarras du choix. Hein,
bien sûr, il y avait du mal sur le terrain, pas mal. Éric, merci beaucoup. C'est tout le temps que l'on a. On se retrouve la semaine prochaine pour sûr.
OK, merci beaucoup.
OK, bye-bye. Merci
bien. Au revoir.
Ça fait une moyenne de 6, hein, j'ai fait la division.